Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes le dernier jour du mois de novembre, le 30 novembre. Ça veut dire que demain, c'est le mois de décembre.
Oui!
Ça veut dire...
24
là, vous avez
jours
toujours...
avant Noël!
C'est... avant
25
Noël.
Jours avant Noël!
Ça veut dire les cadeaux, préparer les réveillons...
C'est ça!
S'acheter du linge...
Faire des listes.
Oui, oui. Alors, entre-temps, on est encore au mois de novembre, alors on va essayer de relaxer avec les deux personnes qui sont autour de la table avec moi. Alors, on va commencer avec Monique. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui?
Alors, chers amis, bonjour d'abord. Le premier article traite des meilleurs moyens disponibles aux consommateurs pour obtenir justice. Alors, est-ce que c'est par les médias? Est-ce que c'est par la Cour des petites créances? Est-ce que c'est par les médias sociaux?
Okay.
Et pourquoi ne pas penser à la médiation? On verra.
D'accord.
Et le second, c'est un article qui tente d'expliquer, alors je suis un peu dans tes plates-bandes,
oui,
Yvan, je m'excuse, pourquoi les Kenyans détiennent toujours les records des courses de longue distance.
D'accord. Je vais réfléchir à ça. Moi, je pense parce qu'ils sont grands, mais c'est peut-être une autre raison.
Il y a peut-être une autre raison.
Marie, toi?
Alors, moi, je fais deux suites de ce que j'ai présenté la semaine dernière. Alors, je vous parle d'un portrait des tout-petits au Québec qui a été présenté par l'Observatoire des tout-petits. Et en deuxième lieu, je vous présente 5 nouveaux conseils pour enrichir la lecture des tout-petits avant qu'ils entrent à l'école.
Oui, et avant Noël, au moment où ils vont recevoir plein de livres.
Tout à fait circonstant.
Tout à fait. Et moi, je suis ces deux dames avec deux sujets. Un jour, il va se mettre à faire froid, puis il va avoir de la neige. Un jour. Alors, courir en hiver et devenir un héros, qui va être suivi par avoir peur quand on fait des aventures à l'extérieur. Et là, vous ne savez même pas de qui je vais parler et de quoi elle a peur.
Ben non, alors on a hâte de savoir.
C'est ça.
Mais la peur est sûrement positive
alors,
dans ce cas-là.
Vous allez vous chercher vos céréales, un café, puis on revient pour des lectures. Alors, c'est un début. Monique.
Alors, sous la plume de Martin Lassalle, pour le journal Forum de l'Université de Montréal, du 21 novembre 2017,
okay.
Un article qui s'intitule « Les médias et les médias sociaux sont-ils les meilleurs moyens d'obtenir justice pour les consommateurs? »
OK, puis là, je suis sûr que tous nos auditeurs sont en train de penser à une raison pourquoi il y aurait besoin de ça.
Bien sûr.
Allons-y.
Alors, le 9 novembre avait lieu un colloque de droit sur les différents moyens pour les consommateurs d'obtenir justice lorsqu'ils se sentent lésés, dont les médias traditionnels et maintenant sociaux. Ne les oublions pas, ils sont omniprésents. C'est l'histoire réelle d'un étudiant qui s'est vu offrir un agenda électronique par Dell après s'être plaint de l'entreprise dans les médias sociaux parce qu'elle avait annoncé le produit à un prix deux fois moindre que ce qu'elle exigeait au moment de l'achat. La page Facebook que l'étudiant avait créée sous le nom de « Dell sont des voleurs
okay. »
avait attiré un grand nombre de consommateurs insatisfaits de l'entreprise. 24 heures après, Dell a offert le produit à l'étudiant en s'assurant que celui-ci supprime la page en question. Cette situation est d'autant plus particulière qu'un recours collectif avait été antérieurement intenté par l'Union des consommateurs contre Bell pour la même publicité qui affichait un prix erroné.
Okay.
Quatre ans après le début de la procédure, 4 ans, n'oublions pas, la cause a été entendue par la Cour suprême sur une question de compétence du tribunal et elle a finalement été...
Déboutée.
Rejetée.
Mmh. OK.
Est-ce à dire que les médias sociaux sont devenus un canal par lequel il est plus simple d'obtenir justice? C'est là une des questions qui ont été abordées au colloque qui s'intitulait « Les voies de justice du consommateur » qui a été tenue par la Fondation Claude Masse en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université de Montréal sous la direction du professeur Pierre de droit, bien sûr, Pierre-Claude Lafont. À cette occasion, il y avait 14 conférenciers qui ont parlé de ces différentes voies qui s'offrent aux consommateurs lorsque survient un différend, dont bien sûr on connaît les tribunaux, les organismes administratifs gouvernementaux et le regroupement de consommateurs, les recours collectifs, les médias traditionnels et sociaux, ainsi que la médiation-conciliation. On va s'attarder aux médias sociaux, qui sont un couteau à double tranchant, selon Maître Nicolas Vermé, qui est aussi professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Exprimer son mécontentement dans les médias sociaux et les outils du Web 2.0 comme TripAdvisor ou bien Yelp peut parfois permettre d'avoir gain de cause sans passer par les tribunaux. Mais attention, les entreprises peuvent aussi se servir de ces déclarations pour intenter des poursuites en diffamation,
oui,
lorsque les propos vont au-delà du seul mécontentement. Le discours sur Internet, on le sait, n'est ni confidentiel ni anonyme, a rappelé le professeur Vermé. Si l'on tient des propos qui sont faux ou diffamatoires, on peut donc être poursuivi. Donc, il nous donne un petit conseil, il faut se calmer avant de formuler des propos sur le web.
Mm-hmm.
Les gros mots ne sont d'aucune utilité.
Est-ce que le président des États-Unis nous écoute présentement?
Il faudrait, mais je ne sais pas s'il serait capable de maîtriser le français.
D'accord.
Mathieu confirme qu'il est sur les...
Ah, il est au téléphone. Oui. OK, alors Mathieu, dis-lui que je lui répondrai
on
après.
On va peut-être avoir un tweet d'ici la fin de l'émission.
C'est ça. Donc, il y a une petite table autour de laquelle il y avait encore Nicolas Vermé, qui est donc... avocat. Il y avait Stéphane Grandmont, qui est journaliste, et Maître Julien Pelletier-David, qui formait le panel traitant de la justice par les médias et les médias sociaux. Journaliste spécialisée dans le domaine de la consommation, Stéphanie Grandmont estime que le recours aux médias, tant traditionnels que sociaux, constitue une solution de rechange aux tribunaux lorsque la qualité de la relation client-commerçant fait défaut. Et c'est là où souvent, le bas blesse. Mm-hmm. Le recours aux médias fait aussi parfois bouger des choses plus rapidement. Alors, quand ici, on parle de médias plutôt traditionnels. Comme ce fut le cas pour un retraité malade à qui l'on avait supprimé une partie du supplément de revenu garanti. Ça a fait la manchette peut-être l'année dernière. Ça vous reviendra mm-hmm. peut-être en mémoire. Quand il avait demandé une révision de son dossier, on lui avait répondu que le processus prendrait 35 semaines. Ça, c'est, et là, on parle du revenu garanti.
Garanti.
Ben oui.
Hein? Oui, oui.
Ouais, du supplément de revenu garanti.
Donc, c'est ce que tu as vraiment besoin ouais. pour survivre.
Et oui, ouais. sans ça, bon. Après des semaines de démarche, il a confié son histoire à Mme Grandmont, la journaliste spécialisée, comme je disais, en consommation, qui a communiqué avec le ministère concerné. Et que s'est-il passé? Eh bien, 2 jours après cet appel, le cas du retraité est réglé. Bon, tous les cas ne se règlent pas comme ça. Mmh. On aurait sûrement beaucoup de témoignages contraires, mais c'est une façon peut-être de contourner. De nombreuses avenues s'offrent aux consommateurs qui souhaitent avoir accès à la justice, dont bien sûr la Cour des petites créances, les recours collectifs, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement, l'Office de protection du consommateur et on pourrait en nommer bien d'autres. Depuis quelques années, la voie de la médiation est davantage mise de l'avant et produit des résultats prometteurs. Essentiellement, la médiation, c'est un processus de règlement des différends par lequel les parties cherchent à trouver une solution mutuellement satisfaisante. Mais ce qui est bien, c'est avec la présence d'un tiers mmh. neutre. Cette approche devrait donc résulter en gagnant-gagnant, mais elle est très peu connue. En fait, les gens refusent souvent d'aller en médiation parce qu'ils croient à tort que ce mécanisme est synonyme de dossier faible. Ce n'est pas le cas.
Okay.
Plus encore, un service de médiation est proposé dans plusieurs palais de justice, dont celui de Montréal, Laval, Gatineau, Joliette et Sept-Îles, le matin même de l'instruction. Donc, il y a un avocat qui offre ce service de médiation sur place. Il semblerait que de 55 à 60 % des gens maintenant acceptent ce recours. Dans 50 % des cas, les parties règlent le différend entre elles. Alors, les avantages de la médiation sont nombreux, a conclu la juge Vézina qui participait à une autre table là, qui était sur la médiation. Il suffit de penser en dehors de la boîte, voire sans la boîte.
Mm-hmm.
Alors, je nous encourage à utiliser cette voie si jamais on a des problèmes à régler.
Mm-hmm.
C'est peut-être plus facile entre individus qu'individu à société comme
oui.
Dell,
oui,
par exemple.
C'est,
c'est donc un article de Martin Lassalle du 21 novembre pour le journal Forum de l'Université de Montréal.
Merci, Monique. Alors, Marie, on continue un peu un article que tu avais lu la semaine dernière.
Quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière.
OK, vas-y.
Donc, celui-ci, le titre de celui-ci, c'est « Moins de maladies et de pauvreté, mais des retards dès la maternelle ». C'est un texte de Louise Leduc qui a été publié dans la presse le 21 novembre, donc la semaine dernière. Comment se portent les enfants québécois de 0 à 5 ans? S'ils vont mieux physiquement, ils sont déjà nombreux à accuser des retards dès l'entrée à la maternelle, selon le portrait 2017 de l'Observatoire des tout-petits, publié la semaine dernière. Et je vous en avais d'ailleurs glissé un mot.
Mm-hmm.
C'est un portrait qui se base sur diverses études et statistiques gouvernementales. D'abord, comment vivent-ils, les tout-petits? Selon les dernières données du recensement disponible, 77,8% des tout-petits vivent dans une famille intacte. Qu'est-ce que c'est une famille intacte? C'est composé de deux parents biologiques ou adoptifs.
Deux parents biologiques. Donc, on parle pas de famille reconstituée.
Non. Deux parents, okay. Biologiques ou adoptifs.
Okay.
Un peu plus du quart des enfants n'a pas encore de frère ou de sœur à 5 ans. D'un point de vue économique, ça va mieux. En 2004, 18,5% des tout-petits vivaient dans une famille à faible revenu, alors que cette proportion a chuté à 12,3% en 2015. C'est une nette amélioration. Comment se portent-ils physiquement de mieux en mieux? La plupart des maladies infectieuses évitables par la vaccination sont en diminution, malgré quelques éclosions d'oreillons et de rougeole depuis 2010. 95% des enfants de 1 an qui avaient reçu tous les vaccins recommandés en 2014. Ça, c'est vraiment très encourageant.
Oui, oui.
Les hospitalisations pour asthme sont en baisse chez les enfants de 0 à 4 ans et les taux de mortalité infantile et juvénile sont en diminution. Alors, voilà.
Donc, ça va mieux.
Donc, ça va mieux. La mauvaise nouvelle, le tiers des tout-petits sont à risque d'embonpoint, font de l'embonpoint ou sont carrément obèses. De 36 mois à 60 mois, les enfants consacrent en moyenne 278 minutes par jour. Ça, Yvan, ça fait combien d'heures, ça?
4h, 38 à l'activité, et 12 secondes.
À l'activité physique et 456 minutes à des activités sédentaires.
Ah, mon Dieu.
Ça, c'est la mauvaise.
Puis
en plus, ils mangent du sucre, je suis certaine.
Et voilà.
en regardant un écran.
Oui,
oui, c'est ça.
Voilà. Alors, et mentalement, maintenant, on peut se poser la question. Très peu de données sont disponibles pour évaluer la santé mentale des tout-petits, peut-on lire dans le rapport. Vrai, les diagnostics tombent souvent un peu plus tard. On sait, cependant, que depuis 2000-2001, la proportion des tout-petits ayant un diagnostic de trouble mental a augmenté de manière significative, passant de 3,5 à 4,8 en 2015-2016.
Est-ce que TDA, TDAH et tout ça, ça fait partie de ça?
Okay. Entre ces mêmes années, la proportion d'enfants ayant reçu un diagnostic de troubles du spectre de l'autisme est passé de 0,16% à 0,82%. Oh, mon Dieu. Les dents, est-ce que ça va? Bien que les, c'est une question qu'on se pose,
ben oui.
Bien que les enfants aient droit à un examen dentaire gratuit tous les ans, seuls 30,5% des enfants de 0 à 5 ans l'ont eu en 2016. Alors, c'est peu connu. Par ailleurs, 10...
Où ils ont peur,
les parents ne le savent pas.
Les parents ont peur.
Oui, c'est gratuit, il faut s'en rappeler.
On parle du Québec ou du Canada?
On parle du Québec.
Okay.
On parle du Québec. Par ailleurs, 10,3% des enfants de 3 à 5 ans ont reçu un traitement dentaire, que ce soit pour soigner une carie ou extraire une dent. Notons qu'au Canada, alors ici c'est différent, la première cause d'anesthésie générale chez l'enfant est la carie. Mmh. Au Québec, bon an, mal an, 5600 enfants québécois, et dans ce cas précis, on parle d'enfants de 0 à 18 ans, ont dû subir une anesthésie générale. Maintenant, on parle de vulnérabilité à la maternelle. Selon une enquête sur le développement des enfants à la maternelle en 2012, menée par l'Institut de la statistique du Québec, 26% des enfants québécois sont dits vulnérables, que ce soit en raison de problèmes de santé, de retard dans leur développement social, affectif, cognitif ou langagier, ou en raison d'habiletés de communication ou de connaissances générales déficientes. La moitié de ces enfants étaient vulnérables dans un seul domaine de développement et l'autre moitié, donc l'autre moitié des 26%, dans plus d'un domaine. Les garçons sont plus à risque d'être vulnérables à leur entrée à la maternelle, de même que les enfants allophones, ceux qui vivent dans des quartiers défavorisés et les enfants qui n'ont pas fréquenté un service de garde éducatif avant la maternelle. Pour compléter ce texte de Mme Leduc, on a fait appel à deux expertes. D'abord, la docteure Catherine Déa, qui est spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la Direction de santé publique de Montréal, et elle y va d'un plaidoyer pour l'accès au CPE. Elle dit « En santé publique, nous constatons que le modèle de service de garde qui attire les plus hauts standards, c'est le CPE. Or, les enfants qui en bénéficieraient le plus, ceux qui sont issus d'un milieu défavorisé, sont ceux qui les fréquentent le moins. » Il serait donc souhaitable que l'on donne accès en priorité au CPE aux enfants qui en ont le plus besoin. On constate aussi que bien que l'on ait d'excellents services de santé, ils sont en nombre insuffisant, entre autres pour ce qui est des suivis de grossesse. Et finalement, Mme Christa Jappel, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM, pour qui il est important de repérer l'anxiété chez les tout-petits, elle dit « Si les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de l'attention sont mieux connus, bien qu'il manque encore de ressources pour aider ces enfants, on en sait encore trop peu sur l'anxiété et la dépression des tout-petits. Comme ces enfants-là ne dérangent pas, ils passent beaucoup sous le radar. Ce que Mme Jappel trouve préoccupant, c'est que le quart des enfants n'a pas la maturité nécessaire dans un domaine ou l'autre à l'entrée à la maternelle. » Et elle ajoute qu'il faudrait impérativement envoyer ses enfants dans un service de garde éducatif plus tôt. Alors voilà, je trouvais que c'était des données intéressantes suite à la parution de ce portrait.
Donc, je sais maintenant que tu es un peu statisticienne dans l'âme.
Si peu.
J'aimerais ça être votre ami. Mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami. Mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Vous trouvez trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
Émile Proulx-Cloutier qui nous chantait « L'enfant scaphandre ».
Oui, puis on va essayer de le voir bientôt. Alors, moi, je vous lis un article que j'ai trouvé dans la presse du 22 novembre, dans la chronique Carnet d'endorphine, que j'utilise souvent. Le titre, « Nous sommes les braves » et l'auteur, c'est Geneviève Lefebvre. « Maintenant qu'il neige ou qu'il va neiger, tu vas arrêter de courir, j'imagine ?» Nous étions attablés au comptoir du restaurant L'Express devant une île flottante bien au chaud. Arrêter de courir parce que c'est l'hiver? Jamais de la vie. Même par grand froid, dans le blizzard et les tempêtes, même sur les routes glacées. Ouais, je dirais même plus, à cause de tout ça. L'hiver est ma saison de course préférée, tout de suite après l'automne. J'aime la blancheur de la lumière, la ouate sous mes runnings, les courses solitaires du soir devant les décorations illuminées de Noël et la soupe à l'oignon croustillante de fromage en rentrant.
C'est ça la
Mathieu
motivation.
Est d'accord. Par-dessus tout, j'aime que les éléments m'obligent à trouver ce qu'il y a de fort en moi. Quand je cours jusqu'en haut du Mont-Royal en janvier, je me sens comme une viking et j'en ai l'appétit en redescendant. Je suis sorti, j'ai conquis les glaces, rien n'est à mon épreuve. Et cette force, j'en suis persuadé, nous accompagne dans toutes les sphères de nos vies, bien au-delà de la course. À Grande-Grave, dans le parc national de Forillon, il y a un ancien magasin général, maintenant classé patrimonial, le Hyman & Sons General Store. Il est exposé au grand vent de l'Atlantique. Quand on rentre à l'intérieur et qu'on regarde par les fenêtres, c'est comme si on affrontait directement l'océan. J'arrivais de traverser la Gaspésie à pied dans le cadre de la traversée de la Gaspésie bottine, une randonnée de 6 jours à travers les splendeurs arides et exigeantes de la nature gaspésienne. Le parc national de Forillon, en territoire Micmac, était notre dernière escale. Pendant ces 6 jours, j'avais eu chaud, froid, mal aux genoux, maudite descente du Mont-Albert, faim, soif, peur, maudite descente du Mont-Albert. Et pourtant, rarement, j'avais été aussi heureuse, vivante, affamée. Comme dirait le poète, qu'importe les obstacles, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais c'est au terme du périple, devant les noms des navires morutiers, espagnols, portugais, français, anglais, soigneusement calligraphiés à l'encre noire, que j'ai pris la pleine mesure de la hardiesse de tous ceux qui sont venus ici avant nous. Eux, c'étaient vraiment des braves. Les Micmacs sont arrivés les premiers, il y a plus de 10 000 ans, par le détroit de Bering, avant les Vikings, avant les Européens et avant l'électricité et les vestes en Gore-Tex. Ils se sont installés sur la péninsule gaspésienne et ils ont fait des enfants, peut-être avec quelques Vikings et aussi avec des navigateurs portugais, anglais, français. Et tout ce beau mélange de gens qui ont eu l'audace de braver l'inconnu et les éléments, ça donne nous. Nous sommes faits de leur force. Cette semaine, j'ai vu mes premiers flocons. Je sais que ce ne seront pas les derniers, d'autant plus que les experts prédisent un hiver rigoureux. À vous aussi, on adressera des regards incrédules quand vous direz que vous continuez à courir dehors malgré le froid, le blizzard et les routes glacées. Vous leur parlerez des Micmacs, des Vikings et des Portugais, et vous leur direz que la soupe à l'oignon gratinée, alors qu'on a bravé les éléments, il n'y a rien qui bat ça. Nous sommes les braves. Alors, c'était dans le carnet d'Endorphine, sous la plume de Geneviève Lefebvre, dans la presse du 22 novembre. On a le temps pour quelques brèves. Vas-y, Marie.
La Fée des Dents donne des livres. Quand un enfant perd une dent, la Fée des Dents est invitée à laisser un livre québécois sous l'oreiller au lieu d'argent. Cette initiative, appelée Une dent, une livre, a été imaginée...
Un livre!
A été imaginée par l'auteur Nadine Poirier dans le cadre d'un concours organisé par Culture pour tous. Il y a 20 dents de lait à perdre, hein? Fait qu'on faut faire des provisions. Alors, on va sur le site Une dent, un livre... Coller.
Ou si on est en Angleterre, une dent, une livre.
C'est pas pareil.
OK. Alors, un petit mot d'enfant.
Selon
vas-y.
Manou, 6 ans, l'eau potable, c'est le liquide qu'on met dans un pot pour la boire. Pot potable.
Oh. Uh-huh. Oh.
Et selon Clara, 6 ans, les Égyptiens, quand ils voyaient la mort arriver, ils se déguisaient en momie pour ne pas se faire repérer.
Oh, c'est bon, ça!
C'est très bon.
Alors, dans quelques instants, on vous revient et on va vous expliquer pourquoi les Kenyans courent si vite. On va vous donner 5 conseils pour enrichir les expériences de lecture et puis on va vous dire que la peur, ça peut être l'allié de l'aventure. Alors, à tantôt!
Qui peut-être m'attend. Je me demande qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je me demande où t'es ce soir. Pendant que sur ce trottoir je marche vers chez une amie. Ta-da-da, la-da-da, ta-da-da, la-da-da. Ta-da-da, la-da-da. Et tu en train de nourrir des goélands. Es-tu en train de sourire à l'océan? Es-tu en train de fuir le regard d'un amant? As-tu une fois déjà aimé vraiment? La 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 la. Si j'entre parfois dans ta pensée,
si on s'est déjà croisé sur cette rue que je descends, ou hier ailleurs dans un tourbillon de feuilles soulevées par le vent. J'attends, je me demande pourquoi toi tu me toucheras tant. Je me demande où tu t'en vas et si je marchais dans tes pas il y a quelques instants.
Martin Léon et sa chanson Je me demande.
Merci infiniment, Mathieu. C'était une très belle chanson. Mmh. Alors on repart. Monique, là tu t'en vas dans le champ des activités physiques.
Oui, mais ce n'est pas les activités physiques, en fait. C'est l'analyse de, entre autres, la physiologie des kinés.
Ah, OK, le côté scientifique.
Le côté scientifique.
Et je sais que tu connais le chercheur.
Oui, c'est ça. Je l'ai fréquenté lorsque j'étais à l'Université de Montréal. Je l'ai fréquenté à titre professionnel, bien sûr. Je l'ai côtoyé, c'est ça. Merci, okay. Marie. Alors, c'est un article écrit par Émilie Rivard-Boudreau pour la revue Québec Science du mois de décembre 2017. Il s'intitule « Pourquoi les Kényans courent-ils si vite ?» Alors, bien sûr, des chercheurs désirent percer le secret de ces as de longue distance qui raflent les podiums depuis 50 ans seulement.
Alors, depuis, je m'intéresse à la chose.
Oui, c'est ça. Mais tu en as parlé aussi, oui. Il y a 2 semaines, je crois. En septembre dernier, le Kényan Eliud Kipchoge remportait le marathon de Berlin sous la pluie avec un chrono final de 2h03 minutes et 32 secondes. Il est passé très, très près de battre le record du monde détenu par un autre Kényan qui s'appelle Dennis Kimeto. Peu importe, puisqu'il est le recordman officieux, parce que le 6 mai 2017, en Italie, il a complété en 2h 25 secondes. Il y a le 25 secondes là qui... Un faux marathon organisé dans des conditions hyper contrôlées par la compagnie Nike.
Quoi, c'est un faux marathon?
Ben, c'est que toutes tes conditions sont hyper contrôlées. Alors, t'es probablement pas à l'extérieur.
C'est en descendant.
Je sais pas. Là, j'ai pas ces informations-là. Kipchoge est le digne successeur d'une longue lignée de Kenyans qui domine les longues distances de course à pied depuis les Jeux de Mexico en 1968. Leur performance exceptionnelle fascine les scientifiques qui s'évertuent à en décoder les mécanismes. François Prince est un de ceux-là. Il est chercheur et professeur en kinésiologie à l'Université de Montréal. Il a multiplié les séjours au Kenya pour mieux décortiquer les mouvements des coureurs en action à l'aide de photos et de vidéos. Au printemps 2018, il recueillera également des mesures 3D de leur morphologie. Toutes ces données permettront de comparer les coureurs kényans aux coureurs canadiens. La masse musculaire, moins importante dans les membres inférieurs, et l'utilisation de mouvements ultra efficaces lors de la propulsion expliqueraient en partie la performance phénoménale des coureurs du Kenya, mentionne M. Prince. À ce jour, aucun facteur physiologique ou même génétique n'a pu expliquer à lui seul, la suprématie des Kenyans. On ne note aucune différence dans leur capacité cardiovasculaire et respiratoire ou dans leur composition sanguine, précise toujours M. Prince. Jusqu'à maintenant, François Prince observe plutôt chez les coureurs kenyans une foulée beaucoup plus grande que celle de leurs homologues nord-américains. Elle est d'une telle amplitude que le talon touche pratiquement les fesses. Selon le chercheur, les Kenyans maîtrisent cette technique dès l'enfance, car ils doivent franchir de longues distances pour se rendre à l'école. Tu en avais parlé.
Ah oui, c'est ça, j'avais parlé.
Oui, c'est ça. Le corps s'adapte alors pour économiser le plus d'énergie possible. Ils consolident ensuite cet apprentissage lorsqu'ils deviennent des athlètes professionnels. Les recherches scientifiques abondent dans ce sens. Dans leur étude de 2012, Wilber et Pitsiladis mentionnent que l'exercice aérobique régulier en bas âge, comme moyen de transport, explique en partie le succès de ces coureurs. Alors, un des coureurs nous dit, il s'appelle Cornelius Kropp-Kappel, « Depuis que j'ai 5 ans, je cours 6 km par jour pour aller à l'école. » Alors, c'est un coureur de 22 ans que l'on a rencontré à Mosorio, au Kenya, lors d'un camp d'entraînement de l'organisme canadien Run for Life. La course lui permettait de réduire la durée du trajet, mais aussi, c'est un petit stratégique, d'éviter d'être puni par les professeurs s'il arrivait en retard. Cela étant dit, tous les coureurs kényans ne naissent pas égaux. Alors, ceux provenant des hauts plateaux, notamment de la province de la vallée du Rift, et ceux issus du groupe ethnique des Kalenjin sont particulièrement doués. Parmi les 404 coureurs d'élite kényans étudiés par Vincent Oniwera, 81% sont nés dans la vallée du Rift et 76% sont des Kalenjin. Donc, selon plusieurs études, leur secret résiderait entre autres dans l'adaptation physiologique à l'altitude.
Oui.
Et ce, dès la vie intra-utérine. Une meilleure oxygénation dans le ventre de la mère favoriserait aussi une meilleure oxygénation, du cerveau du bébé. Alors, c'est ce que nous indique François Béliot, qui est aussi chercheur en physiologie à l'Université Laval, qui a montré les effets bénéfiques liés au fait de vivre et à s'entraîner à plus de 2000 mètres d'altitude. Le corps s'adapte à ces conditions en augmentant la sécrétion de la fameuse hormone connue sous le nom d'EPO. Mmh. Celle-ci accroît le nombre de globules rouges dans le sang, améliore du coup l'apport en oxygène. Il n'est donc guère étonnant que l'une des destinations de choix des marathoniens du monde entier soit Iten, une petite bourgade de la vallée du Rift qui est située à plus de 2400 mètres d'altitude. Alors, si les Kenyans surpassent si facilement leurs compétiteurs, c'est aussi parce que la course est un échappatoire à la pauvreté. Donc, ils arrivent plus vite à l'école, mais aussi, ils peuvent sortir de la pauvreté.
Ouais.
Et personne n'incarne mieux cet espoir que Kipchoge, Kimeto et leurs prédécesseurs. Leurs exploits nourrissent l'imagination de leurs émules qui aspirent au même destin, voire mieux, devenir celui qui réussira à courir le marathon sous la barre mythique du 2 heures. On est à 25 secondes près, là.
Oui, hein? Donc on peut supposer que le transport scolaire au Kenya, on ne pense pas à ça.
On oublie ça. Et c'était donc un article d'Émilie Rivard-Boudreau pour la revue Québec Science de décembre 2017.
Merci beaucoup, Monique.
Je n'irai plus dans tes plates-bandes, je te le prouve.
Oh non, c'est vrai, ça valait la peine. Marie, toi, vous commencez par des M, les M&M. Toi, tu restes dans ton domaine, par exemple,
dans ma plate-bande. Cinq conseils pour enrichir les expériences de lecture d'histoire auprès des enfants d'âge préscolaire numéro 2. Parce que je vous ai lu le premier texte la semaine dernière. C'est toujours un texte de Pascal Lefebvre, qui est orthophoniste et professeur à l'Université Laurentienne à Sudbury. Et, je m'excuse, à l'Université d'Ottawa. Son texte a été publié sur le site parlonsapprentissage.com le 22 novembre dernier. La semaine dernière, donc, M. Lefebvre nous proposait 5 conseils éprouvés pour enrichir les activités de lecture d'histoire auprès des enfants de 3 à 5 ans avant leur apprentissage formel de la lecture et de l'écriture au primaire. Je vais devoir boire de l'eau parce que je ne me rendrai pas à la fin.
Petite pastille.
Ça va aller.
Ça va maintenant?
Oui, on essaie.
Est-ce que ça, c'était un des trucs?
Non, c'est pas un des trucs. Alors, je vous suggère 5 nouveaux conseils cette semaine.
En plus de celui-là.
Donc, le conseil numéro 6, parler des lettres de l'alphabet. La connaissance des lettres de l'alphabet est le facteur le plus puissant pour prédire le succès lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au début du primaire. Est-ce qu'on va s'en sortir?
Est-ce que tu veux faire une pause? Parce que moi, je vais lire mon article.
Ben oui, on pourrait
ça
faire
va te donner
ça,
une chance.
Hein? De revenir à la normale.
Oui, c'est ça.
Merci.
On va essayer de te ressusciter.
Je suis désolée.
OK. Alors, alors moi, de mon côté, je vous lis un article de Mylène Paquette, celle qui a traversé l'Atlantique à la rame, qui est paru dans le magazine Espace en novembre 2017. Et le titre, c'est « La peur alliée de l'aventure ». Au moment précis où j'ai entendu la possibilité de réaliser une traversée de l'Atlantique à la rame, tout s'est précipité en moi. La joie, l'excitation, le désir de vivre cette aventure intensément, mais aussi la peur. Le simple fait de savoir que je devrais descendre sous l'eau pour nettoyer la coque de mon embarcation m'empêchait de croire que je serais capable de réaliser cette aventure. À cause de la longueur des expéditions et de la faible vitesse de propulsion, les rameurs qui bravent les océans du monde doivent régulièrement descendre dans l'eau, grattoir à la main, pour déloger les anatifs. C'est des petits crustacés qui s'accumulent sur la coque. Car si, pour certains, le fait de ne pas voir les côtes en naviguant, d'être enfermé dans une cabine étroite ou d'être seul pour affronter le mauvais temps, ça c'est ce qu'elle vit, pour certains, c'est synonyme de crainte et d'angoisse. Dans mon cas, j'ai peur de quelque chose de bien moins raisonnable. J'ai peur de l'eau.
Mon Dieu!
Je n'ai jamais ressenti la peur en étant sur l'eau, à bord d'un bateau ou sur un quai.
C'est sous l'eau.
Ni lorsque je plonge la tête sous la surface. En fait, je n'ai pas peur de l'eau elle-même. J'ai plutôt peur de m'y retrouver seul pour devoir y nager. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai écouté « Les dents de la mer » plusieurs fois avant l'âge de 5 ans. Jaws. Dès lors, la peur de l'eau a si bien investi l'enfant en moi que j'étais incapable de prendre un bain.
Ah là là.
Avec l'aide de ma psychologue, j'ai compris que je devais changer de point de vue par rapport à la peur en général. J'ai réalisé qu'avoir peur, c'est d'abord positif. Puisqu'elle nous indique la présence d'un danger... et nous fait éviter ce qui pourrait nous faire courir à notre perte. La peur est un système d'alarme à l'efficacité non négligeable, surtout lorsqu'on se retrouve au beau milieu de nulle part. Bien vite, j'ai cependant dû reconnaître que l'angoisse que l'eau faisait naître en moi était une fausse alarme. Ma psychologue m'a alors proposé des exercices de visualisation afin d'aborder différemment mon contact avec l'eau. Même si j'appréhendais une catastrophe les premières fois où je m'imaginais descendre dans l'eau, j'ai réussi à vivre dans ma tête une plongée qui puisse bien se passer après quelques essais. Ces exercices m'ont permis de cesser de nourrir ma peur et visualiser ma descente sous l'eau m'a forcé à envisager une autre situation qu'une attaque de requin, comme nous le propose le cinéma depuis des décennies. Pour cesser d'avoir peur, il faut donc laisser la peur nous habiter. Et plus on est en contact avec elle, moins elle a d'emprise sur nous. Une sorte de vaccin, en quelque sorte. C'est alors là, et seulement là, qu'on peut répondre à la question « De quoi ai-je peur vraiment? » J'ai peur d'être seul dans l'eau parce que, si un requin surgit, j'ai peur d'être vulnérable et démuni. J'ai peur d'avoir besoin des autres et qu'il n'y ait personne pour m'aider. Quand on ressent les sensations que procure la peur, on tente de les contrôler parce que cette attitude est synonyme de courage et de force. Malgré nos bonnes intentions, peu importe l'aventure dans laquelle on évolue, nos peurs ont besoin d'être écoutées. Parce que dans nos requins imaginaires se cachent des peurs fondamentales qui ont besoin d'être reconnues. Les peurs sont universelles, seuls les visages qu'elles prennent ne le sont pas. Peu importe nos origines, notre âge, notre genre et même notre époque, nous ressentons tous la peur fondamentale d'être démunis ou abandonnés. Nous partons tous en quête de voyages extraordinaires pour être en contact avec les grands espaces et vivre les sensations fortes que seule la nature peut provoquer. Mais le vrai voyage ne se réalise pas au milieu de l'océan ou au sommet d'une montagne. Le vrai voyage se déroule à l'intérieur de soi, à travers toutes ces sensations et ces perceptions qui font de nous des êtres humains complexes, fascinants, véritables. Accueillir nos peurs les plus profondes demande de l'humilité et une fois écoutées, apprivoisées et reconnues réellement, nos peurs se dissipent pour nous offrir le cadeau le plus précieux au monde, la liberté. La liberté de parcourir le monde et de découvrir la nature qui nous entoure autant que la nôtre. Bon voyage, nous souhaite alors Mylène Paquette dans son article « La peur, alliée de l'aventure ».
Merci beaucoup, c'est fort intéressant.
OK, deuxième essai.
Bon, d'abord, merci Yvan d'avoir pris le relais. Merci à Monique pour la pastille. Ça va bien aller.
D'accord. Alors, on vote pour toi.
Les cinq conseils. Le premier était parler des lettres de l'alphabet. Et on disait la connaissance des lettres est le facteur le plus puissant pour prédire le succès lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au début primaire. En fait, selon les spécialistes, lorsqu'ils connaissent préalablement le nom des lettres, les enfants apprennent plus facilement les correspondances entre les sons de la langue qu'on utilise pour parler et les lettres avec lesquelles on écrit les mots, ce qui constitue un apprentissage essentiel pour la réussite en lecture et en écriture. On peut utiliser la page couverture des albums jeunesse qui offre une occasion unique de parler des lettres de l'alphabet parce que celles-ci sont souvent présentées en gros caractères. On peut commencer aussi par parler des lettres du prénom des enfants parce que ce sont les lettres les plus faciles à apprendre pour eux. Nommer les lettres souvent car les enfants apprennent plus facilement à écrire les lettres dont ils connaissent le nom et profitez-en pour montrer comment ils s'écrivent. Pour ce faire, choisissez une lettre sur la page couverture, tracez-la avec votre doigt tout en expliquant comment vous y prenez et demandez aux enfants de faire la même chose avec leur doigt sur la lettre du livre, puis de l'écrire ensuite de mémoire dans les airs. Un autre conseil, attirer l'attention des enfants sur les syllabes et les sons dans les mots de l'histoire. L'habileté à percevoir et à manipuler les syllabes et les sons facilite grandement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au début du primaire. En ce qui concerne les syllabes, amusez-vous à les compter dans certains mots de l'histoire en tapant des mains. Amusez-vous à trouver une syllabe précise en écoutant les mots tout au long de l'histoire. Dites les syllabes d'un mot individuellement. Amusez-vous à les coller ensemble pour former le mot. En ce qui concerne les sons, attirez l'attention des enfants sur la fin des mots de l'histoire. Amusez-vous à trouver les mots qui riment, c'est-à-dire ceux qui finissent par le ou les mêmes sons. Ensuite, on peut faire porter l'attention des enfants sur les sons par lesquels les mots commencent et trouver ceux qui débutent par le même son. On peut aussi chercher tous les mots de l'histoire qui commencent par un son qu'on a choisi avec les enfants. Pour ceux qui fréquentent la maternelle, vous pouvez même jouer à ne dire que le premier son des mots, à dire les sons des mots individuellement, puis à les coller ensemble pour former le mot. Le contexte de lecture d'histoire se prête parfaitement à ce genre d'activité. Moi, j'ajoute personnellement qu'il ne faut pas que ça nuise à la compréhension de l'histoire. Mm-hmm. On pourrait faire ces activités après, mais surtout, surtout après la lecture, puis pas pousser trop pour pas gâcher le plaisir. Le huitième conseil, lisez la même histoire plus d'une fois. Plusieurs études ont démontré, toi.
Oui, bien, c'est parce que c'est souvent la demande des enfants.
Mais oui, évidemment. Et plusieurs études ont démontré l'importance de la lecture répétée d'une même histoire pour le développement du vocabulaire des enfants. En effet, pour que la grande majorité des enfants apprennent le vocabulaire des livres, qui est différent de celui que l'on utilise pour parler, mm-hmm. ils doivent l'entendre plus d'une fois. Pour éviter que cela soit trop routinier, vous pouvez progressivement laisser plus de place aux enfants en lisant le même album de différentes façons. On commence par lire l'histoire une première fois, en évitant de poser des questions. Ensuite, on le relit et on fait exprès de se tromper. Les enfants réagiront, auront du plaisir à vous prendre en défaut. Et quand on sent que les enfants connaissent bien l'histoire, on peut leur poser des questions pour progressivement les inviter à raconter l'histoire eux-mêmes avec ou sans notre aide. Laissez les enfants parler avec vous pendant l'activité de lecture. L'interaction verbale permet aux enfants d'être actifs pendant la lecture d'histoire, et c'est lors de ces échanges que s'effectuent les apprentissages en matière de langage et d'éveil à l'écrit. Ainsi, faites des pauses pour permettre aux enfants de faire des commentaires ou poser des questions. Laissez-leur la chance de faire semblant de vous lire l'histoire, surtout lorsqu'ils la connaissent très bien.
Mm-hmm.
Lorsque vous leur posez des questions, n'hésitez pas à les formuler avec des mots interrogatifs. Pourquoi et mm-hmm. comment? Pourquoi penses-tu que? Comment penses-tu que? Parce que les questions de ce genre amènent à parler d'événements hypothétiques, de faire des hypothèses qui enrichissent la compréhension des histoires. Et le dernier conseil, lisez des histoires tous les jours, autant mm-hmm. que faire se peut. Selon un expert, la lecture d'histoires à la maison, pendant laquelle les parents enseignent des concepts à leurs enfants, a des effets mesurables jusqu'en quatrième année du primaire.
Oh, mon Dieu.
En d'autres mots, plus les enfants sont exposés à ce genre d'expérience, meilleurs sont les résultats en littératie. À la lumière de ce constat, il est donc recommandé de lire des histoires avec les enfants et de profiter de ces moments pour montrer des connaissances et des habiletés qui prédisent le succès en lecture et en écriture, et ce, le plus souvent possible. Et en faisant une activité intégrée à la routine quotidienne, vous vous assurez que les enfants obtiennent la dose suffisante de lecture d'histoires pour réussir en lecture et en écriture. Voilà, finalement.
Ben, bravo.
C'était beaucoup de beaux conseils.
Oui, c'était beaucoup de beaux conseils.
Merci beaucoup, Marie. Alors, on a du temps pour quelques brèves. Et Monique, tu vas solutionner au moins une des questions primordiales qu'on se pose tous.
Oui. Alors, pourquoi la mer mousse-t-elle parfois sur le bord de la plage?
Oui.
Donc, ça nous encouragera peut-être à aller au bord de la plage dans les prochaines semaines.
Mm-hmm.
Donc, l'écume de mer est due à la dissolution de matières organiques qui sont issues de la dégradation de bactéries, de micro-algues, de zooplancton ou de poissons morts. Oui, ben, y a tout ça qui se passe, hein. C'est quand même...
Oui, oui.
C'est vivant, c'est ça. Oui. Dans les turbulences provoquées par le vent ou les courants, cette matière organique devient gélatineuse et elle est constituée de sucre, lipides et protéines. Et agitée, elle est agitée et des bulles d'oxygène s'y dispersent.
Mmh.
Alors, résultat, il y a émulsion. On se pencherait dans la cuisine. Alors, et justement, on nous dit « comme des blancs d'œufs battus en neige ». Alors, la plupart du temps, cette écume est peu épaisse et se disperse rapidement, de sorte qu'on ne la voit qu'au niveau des rouleaux qui s'échouent sur la plage, là où il n'y a plus de turbulence. Mais, paraît-il, entre autres, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et de la côte de la Manche, on observe des mousses persistantes qui sont plus épaisses. Et je vous le mentionne parce que comment on les appelle, c'est le vert de mai, V-E-R-T de mai, mois de mai.
Mmh.
C'est beau. Et on ne nous explique pas par ailleurs comment elle disparaît, cette mousse épaisse. Donc,
ben, une semaine prochaine peut-être?
Peut-être, mais il faudrait poser la question à Science et Vie
en France. Je te donnais un défi.
Là. C'est gentil. Je vais faire la recherche.
Alors, de mon côté, il y a l'équipe de l'Association sportive, l'Association des sports pour aveugles du Québec est très fière de présenter un nouveau projet qui s'appelle l'inclusion à l'envers. À travers ce projet, il vise une inclusion inversée en invitant les élèves voyants à découvrir et à essayer le goalball, le tennis sonore ou le cécifoot, selon s'ils sont de niveau primaire, troisième cycle ou secondaire. Les élèves malvoyants auront la possibilité de faire partie d'une équipe au sein de leur propre école. En outre, le projet L'inclusion à l'envers entend faire bouger les jeunes et contribuer au développement des habiletés physiques, sensibiliser le milieu scolaire en démontrant les jeunes malvoyants que les jeunes malvoyants peuvent également faire du sport, diversifier les sports à l'école et favoriser la socialisation et stimuler l'esprit d'équipe. Faites passer le mot. On vient animer les cours d'éducation physique des classes incluant au moins un jeune ayant une déficience visuelle. Puis pour avoir de l'information sur le projet, vous contactez Naomi Douarilus à l'ASAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Marie, encore un peu de temps.
Oui, alors la vieillesse, selon Thomas, 8 ans, c'est à cet âge-là qu'il faut se marier. Comme ça, on hérite plus vite. Et je termine. Ludivine, 9 ans et demi, dit que la vie, c'est une histoire vraie.
J'aime beaucoup
celle-là.
Il faudrait aussi envoyer ce mot d'enfant à M. Trump. Je ne suis pas sûre qu'il ait compris ça, là, les choses qui sont vraies.
On l'appelle tout de suite. Alors, il me reste 30 secondes pour justement remercier Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche, à la lecture, à l'infirmerie, Monique Kirouac, Marie Lalande et Yvan Deslauriers.
Merci.
Et restez avec nous parce que suit tout de suite après Hélène Denis avec les voies de service. Et on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.